Merci Tiffaine, bon week-end. Notre-Dame des pleurs ou figure première du romantisme, poésie de Couvet ou poésie novatrice, au-delà et avec les larmes donc, Marceline Desbordes-Valmore, relue par Christine Planté et Esther Pinon.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. D'elle, on a tout dit, ou presque, et ce fut bien souvent par la voix d'hommes poètes que cette femme poète se fit une place dans l'histoire. Mélange ferme de reconnaissance et de condescendance, d'admiration et d'inévitable renvoi au féminin. Une innocente, un art sans art, s'enthousiasmait Stefan Zweig. Un chant gardant toujours l'accent délicieux de la femme, ça c'est pour Baudelaire. La seule femme de génie et de talent de ce siècle et de tous les siècles, ça c'est pour Verlaine. Ou encore la première voix authentique de la poésie féminine des temps modernes dans notre langue, ça c'est pour Yves Bonnefoy. Mais il faudrait aussi, pour être juste, ajouter sa promotion à la qualité d'initiatrice quant au moyen de dire, par Mallarmé. Marceline Desbordes-Valmore, donc née à Douai en 1786 et disparue en 1859 à Paris. Poète, donc, que vous enjoignez à relire, Esther Pinon et Christine Planté. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À toutes les deux. À relire, donc, c'est ce que vous dites toutes les deux, parce que j'imagine mal lu ou peut-être trop lu à l'école. Je pense notamment aux Roses de Saadi ou à L'oreiller d'une petite fille, ou peut-être pas assez lu en poète, Christine Planté.
Oui, je crois que Marceline Desbordes-Valmore est vaguement connue quant à son nom, ce nom très sonore qui reste dans les mémoires, et connue quant à quelques poèmes. Vous venez d'évoquer L'oreiller d'une petite fille du côté des poèmes pour enfants, Les Roses de Saadi, qui est un très beau poème, mais si appris par cœur, si mis en musique, on finit par ne plus entendre ce que disent les vers, et on évoque le titre en y associant immédiatement certains clichés du féminin, aussi à travers une romance comme Les Séparés, chantée à la fin du XXe siècle par Julien Clerc.
Et Benjamin Biolay, qu'on entend.
Et Benjamin Biolay, qui l'a reprise ensuite. Et puis, alors plus près de nous, chantée par Pascal Obispo, qui lui consacre tout un album. Probablement, des auditeurs ont été frappés par ces chansons et ces vers, et les ont repris ou fredonnés, sans forcément savoir qu'ils étaient dus à une femme poète, Marceline Desbordes-Valmore. Donc elle est là, elle est connue, mais elle est peu lue, et on ne lit que quelques textes, toujours les mêmes, voire quelques extraits de textes. On évoquera peut-être ensuite ce poème aujourd'hui assez célèbre, Une lettre de femme. On cite toujours les premiers vers parce qu'ils ont un caractère quasi héroïque. Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire. J'écris pourtant. Et on lit moins la suite, qui est peut-être moins héroïquement féministe pour une réception contemporaine, parce que dans mon cœur, afin que dans mon cœur, au loin, tu puisses lire comme en partant. Donc quelques vers, quelques poèmes, mais rarement la totalité d'une œuvre qui mérite vraiment le nom d'œuvre par son importance, par sa cohérence et par sa nouveauté dans l'histoire de la poésie française.
Comment est-ce que vous expliquez qu'on l'ait mal lu alors, Christine Planté ?
On ne peut pas écarter la donnée du féminin et d'une position de femme qui a joué, je dirais, dans les deux sens en ce qui concerne Marceline Desbordes-Valmore, c'est-à-dire probablement dans une époque où il n'était pas impossible mais où il était difficile pour les femmes de publier de la poésie et surtout d'être reconnue avec la dignité de poète. Elle a été tôt, bien avant le moment du plein romantisme des années 1830, reconnue, acceptée, célébrée. Et probablement dans cette écoute et dans cette reconnaissance, entre-t-il une part de féminin ou de croyance au féminin ou de reconnaissance d'un féminin conforme à des idéaux de l'époque et qui sont le fruit de l'héritage de toute une culture, en particulier.
Dont elle a usé un peu, peut-être.
Alors, c'est très difficile à dire. Bien sûr, elle se dit femme elle-même, elle se revendique elle-même, et d'une solidarité de femme, et d'une assomption de la position de femme dans ce qu'elle a de douloureux, de dominé, de difficile, de différent et à l'écart aussi. Est-ce qu'elle en joue comme par une stratégie? Est-ce qu'elle s'y reconnaît pleinement? C'est bien sûr une question extrêmement délicate qu'il est difficile de trancher. Ce qui est certain, c'est qu'elle est fidèle à cette position avec des inflexions, avec des évolutions tout au long de son parcours. Après, je pense que c'est vraiment une erreur et une écoute partielle ou superficielle ou tout simplement conformiste que de vouloir entièrement l'enfermer dans ce féminin de convention.
Alors j'imagine d'autant plus que de la stratégie, il va lui en falloir, en tout cas il en faut à ce moment-là pour persister à créer lorsqu'on est une femme à cette époque-là. Vous parlez, Esther Pinon, d'une œuvre humble, novatrice, marginale et célébrée. Ce sont vos mots, et vous évoquez un paradoxe qui rejoint un peu ce que disait à l'instant Christine Planté. Marceline Desbordes-Valmore, reconnue et méconnue.
En effet, je pense que vous avez cité pour commencer cette périphrase de Notre-Dame des Pleurs, et souvent on retient d'elle cette vision un petit peu doloriste, associée aux séparés, par exemple. Je pense qu'il y a tout un éventail à redécouvrir dans son écriture et dans cette articulation, encore une fois, de l'intime et de l'autre. Moi, ce qui me frappe dans l'écriture de Desbordes-Valmore, c'est cette manière qu'elle a d'ouvrir le lyrisme à l'autre. Et bien souvent, sa biographie est tellement romanesque et même mélodramatique qu'elle fait parfois écran à la lecture et que l'on retient cette part intime, lyrique, peut-être sans entendre, en tout cas quand on la lit au prisme des quelques poèmes extrêmement célèbres qu'on a cités, sans entendre cette marche à l'autre, je reprends des mots employés par Christine Planté, qui me paraît vraiment un mouvement essentiel de son écriture. C'est peut-être ce visage d'elle que l'on oublie trop.
On va y revenir bien sûr, à ce « tu » polyvalent, oui, qu'on repère évidemment chez Marceline Desbordes-Valmore.
Annonce un jour fait pour l'amour de la pensée tout oppressée pour te revoir. J'attends le soir. Heure charmante, soyez moins lente, avancez-vous, moment c'est doux. Une journée est une année quand pour te voir. Palpite, mon cœur me quitte, je vais te voir, voilà le soir.
Le soir, bref, poème donc de Desbordes-Valmore, écrit sans doute autour de 1815, mis en musique par Saint-Saëns, la soprano Françoise Massé au chant et Nicolas Stavy au piano, enregistré sous le label Solstice, c'était en 2009. Qui est-elle dans ces années-là? Quelle est sa place dans le paysage pour que un jeune prodige, un jeune compositeur âgé de 6-7 ans, c'était l'âge de Saint-Saëns quand il compose ce qu'on vient d'entendre, compose malgré tout à partir d'elle pour l'offrir à son professeur, Esther Pinon?
Je pense que cette romance mise en musique par un enfant illustre exactement la position de Marceline Desbordes-Valmore dans le paysage culturel de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est déjà relativement peu lue pour ses recueils qu'elle peine à faire paraître. En revanche, elle est immensément connue et populaire parce qu'elle publie dans la presse et parce que ses romances sont chantées. Donc c'est une poésie qui échappe au livre en quelque sorte, qui prend son essor ailleurs. Et ce choix d'un tout jeune enfant, alors a-t-il été guidé ou non, sans doute, c'est difficile à déterminer, mais atteste voilà, de cette popularité de son écriture. Mais je trouve très émouvant qu'elle soit entendue voilà, partout, au point d'être... l'auteur de choix d'un jeune enfant qui fait ses gammes, en quelque sorte, dans le métier de la composition.
Alors, on reviendra, hein, bien sûr, sur ce qu'on a fait de Marceline Desbordes-Valmore, hein, mais peut-être quelques mots pour commencer, et qui viendront un peu confirmer ce que vous avez déjà dit, Esther Pinon, hein, sur cette biographie qui a probablement fait écran, enfin, qui a largement fait écran, quant à la lecture de l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore, donc de celle qu'on surnomma Notre-Dame des pleurs et pour cause. Hein, alors, je prends mon élan, mais je vais faire très vite, hein, c'est pour qu'on évacue ça et qu'on en parle plus. Elle a 10 ans, hein, quand sa mère, à peu près, hein, quand sa mère quitte son père pour un amant, qui va l'emmener pendant des années sur les routes de théâtre en théâtre, pour pouvoir survivre tant bien que mal. Et puis suivra le brusque départ en 1801. Elle a une petite quinzaine d'années pour les Antilles, hein, toujours dans le sillage d'un amant, de sa mère. Antilles où elles arrivent en pleine révolte, attrapent toutes les deux la fièvre jaune, sa mère en meurt, la laissant seule à 16 ans aux Antilles. Et puis au retour à Douai, il faut vivre et faire vivre, hein, ce qui lui reste de famille. Et donc elle retourne sur les planches et deviendra actrice, comme on le sait, ces années durant lesquelles elle perdra une fille illégitime, puis un fils illégitime, se mariera avec le comédien Prosper Valmore, perdra encore une fille, et tombera amoureuse en 1819, hein, de cet amour impossible qui va hanter toute son œuvre, de l'écrivain Henri de Latouche. Voilà, on va s'arrêter là, comme ça c'est fait. Jusqu'où faut-il tenir compte de ce surnom de Notre-Dame des pleurs? Est-ce que ça dit véritablement quelque chose de la poète qu'elle était, ou simplement de ce qu'on a voulu voir chez une femme poète? Est-ce qu'il est inexact de dire qu'elle a écrit aussi parce qu'elle a souffert? Christine Planté.
Elle a écrit parce qu'elle a souffert, elle le dit elle-même. Quand elle revient sur son itinéraire poétique, en particulier dans des confidences à Sainte-Beuve, que Sainte-Beuve, qui est devenue un de ses amis, a suscité, et qu'il a publié... à l'état d'extrait et en leur donnant une sorte de cohérence légendaire, elle explique qu'elle a dû, à 20 ans, cesser de chanter et renoncer au chant parce que sa voix la faisait pleurer. Et que à ce moment-là, elle a été hantée d'une sorte de rythme intérieur, hein, cette musique qui ne pouvait pas s'extérioriser, et que pour se délivrer de ce frappement fiévreux, elle s'est mise à écrire et on lui a dit que c'était une élégie. Il y a une autre version de ce récit de venue à la parole poétique qui indique que sur les conseils d'un médecin, elle a écrit de façon en somme thérapeutique, hein, une sorte de thérapie novatrice à l'époque, par la parole. Donc, dans tous les cas, bien sûr, il y a en amont de la souffrance. Et ce récit, évidemment, stylisé, c'est une certaine image et intelligibilité qu'elle veut donner d'elle-même. Il n'y a aucune raison de le supposer faux. En même temps, il me semble incomplet. Je voudrais revenir d'un mot sur le soir qu'on a entendu admirablement chanté par Françoise Massey. On comprend bien pourquoi de tels vers, alors surtout portés par la musique de Saint-Saëns, mais même avant, il y a eu d'autres musiques mises en musique de ce texte, pourquoi de tels vers ont circulé, parce qu'ils ont en même temps cette extrême facilité de la romance. Hein, c'est un genre populaire, facile, léger, extrêmement en vogue au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Et en même temps, il fournit, ce genre de la romance, des moyens poétiques très nouveaux, en particulier ces vers courts de quatre syllabes qui donnent ce rythme si léger, tout s'enfuit comme le moment du soir, comme le moment de l'attente qui s'épuise à espérer un aimé qui peut-être ne viendra pas. Donc avec ces genres marginaux, populaire, non pas au sens sociologique, mais au sens où ils sont très largement diffusés, Marceline Desbordes-Valmore trouve très tôt des moyens de forger une autre parole poétique, un petit peu déprise des héritages poétiques classiques, et en même temps, elle touche très facilement ses contemporains. Ce qu'elle invente là, dans les premières, vous avez dit probablement autour de 1815, hein, pour ce texte. Et là, elle invente quelque chose d'extrêmement libre, finalement, puisqu'elle n'a pas encore à se draper ou à se poser en poète. Elle n'est pas poète à ce moment-là. Elle est une petite comédienne qui aime la poésie, qui fait des vers, et qui fait des vers, qui invente une parole, je dirais, en faisant feu de tout mot. Donc bien sûr, il y a les grands vers de Racine, puisqu'elle est comédienne, elle les a appris par cœur, elle les a dit, elle les a joués, elle les a portés avec son corps à la scène, et elle a entendu l'effet de cette parole sur le public. Et puis, il y a aussi ses chansons, ses romances qu'elle écrit, elle a même un petit peu composé, on a au moins retrouvé une partition d'elle, qu'elle a dû chanter dans des salons, dans des loges où les comédiennes recevaient le public après le spectacle. Donc il y a là un creuset extrêmement divers, ce que vous disiez, et aussi qui est une puissance de liberté. Quand bien plus tard Virginia Woolf dira que être enfermée à l'extérieur des bibliothèques dans une chambre à soi, c'est une malédiction, mais en même temps c'est une chance de liberté, on peut dire que c'est un petit peu la position de Marceline Desbordes-Valmore. Elle n'est pas du tout hors de la culture, mais elle est dans une position très singulière, un petit peu marginale, qui lui donne cette liberté, cette diversité, qu'elle va savoir extraordinairement s'approprier pour les unifier dans sa parole propre. Et cette unification, bien sûr, vient de l'expérience la plus intime, et qui est là une expérience marquée par la douleur, c'est certain.
Vous parlez, Christine Planté, d'autobiographie indéfinie. Hein,
oui.
À son propos.
Autobiographie indéfinie, cette formule qui vient d'un article assez ancien, est une réaction à l'espace de lecture autobiographique, pour parler comme Philippe Lejeune, dans lequel on a beaucoup enfermé la lecture de l'œuvre, hein, pendant très longtemps. C'est particulièrement vrai pour Marceline Desbordes-Valmore, mais c'est vrai pour bien d'autres œuvres de femmes, en prose et en vers. On a pensé que on avait là une sorte d'énigme, de déchiffrement, et que en mettant bout à bout tous les éléments biographiques que l'on pouvait retrouver décalés dans l'œuvre, on allait expliquer celle-ci et en épuiser le sens. Or, ceci va vraiment profondément à contresens de ce qu'a voulu Marceline Desbordes-Valmore. Bien sûr, elle parle depuis elle-même. Le jeu est central, je pense qu'on va en reparler. Depuis la vie, depuis une expérience de la vie profondément marquée par la douleur. Mais en même temps, elle refuse absolument le biographique. Et quand des publications du temps, à peu près contemporaines des Pleurs, veulent publier des recueils collectifs rassemblant des textes sur les femmes auteurs les plus connues de l'époque, en vers et en prose, elle dit à des amis, dans des lettres, son effarement de ce qui lui est demandé là. Et elle dit « Qu'ai-je de biographie, moi qui vis dans une armoire ?» C'est-à-dire, elle est à l'écart du mondain. Elle est à l'écart du monde littéraire à ce moment-là. Elle n'est plus comédienne, elle passe beaucoup de temps auprès de sa famille. Et elle sait très bien que sa biographie, au sens littéral, l'écriture de la vie, ce sont les poèmes. Les poèmes, c'est ce qui permet de donner sens à la vie, de s'échapper des contraintes et des souffrances répétées. Donc que la lecture ramène au contraire à la vie comme lieu de contrainte et d'enfermement, c'est pour elle un contresens et aussi une douleur. Et précisément, les poèmes sont là pour essayer d'affronter une vie dont le malheur paraît souvent excéder ce qui est supportable pour un individu. Bon, vous avez donné quelques éléments pour la jeunesse, ça se poursuit dans la suite, en particulier à travers de nombreux deuils. Mais donc la poésie permet de mettre en langage, de faire sens, de sortir de soi, de faire sens pour autrui. Et donc il y a quelque chose de profondément désespérant, mais aussi sourd à la force et au projet de l'œuvre, que de la ramener constamment à cette expérience vécue. Mais il n'y a pas que cela. Il y a une attention passionnée pour le monde contemporain. sous toutes ses formes. L'art, le théâtre, bien sûr, la musique, la peinture, il y a un goût des échanges intellectuels. C'est aussi quelqu'un qui, manifestement, d'après tous les témoignages, savait être drôle, savait être extrêmement présente dans les échanges, probablement présente par sa voix. C'est quelqu'un qui devait, au théâtre, puis dans les rapports sociaux, intimes ou plus mondains, savoir immédiatement retenir l'autre par l'usage qu'elle faisait de la voix.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manon Farine.
Esther Pinon, qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de la comédienne, de l'actrice qu'elle était ?
On sait qu'elle l'émouvait beaucoup, presque trop. On peut relire des critiques, des créations, des pièces dans lesquelles elle a joué, qui admirent son élan et qui lui reproche peut-être de ne pas maîtriser suffisamment cette émotion, de se laisser emporter, ce qui cautionne ce qu'elle disait sur sa propre voix qui l'a fait pleurer. En réalité, les critiques de son jeu théâtral, qu'elles soient positives parce qu'il y en a beaucoup d'extrêmement élogieuses ou qu'elles émettent des réserves, programment presque déjà la réception de sa poésie avec cet accent porté sur la voix et sur l'émotion. Et on sent bien que cette carrière sur les planches a été une sorte de laboratoire de la voix. Elle prend sans doute conscience là, en portant les mots des autres, de la puissance, non pas tant de l'écriture, mais de la voix. Et je trouve que la poésie de Marceline Desbordes-Valmore est extrêmement vocale. Quand on la lit, on entend une élocution particulière, qui est très, très nette, qui se distingue. Et je pense qu'elle recherche, c'est une impression subjective, mais qu'elle recherche cette transmission de la voix par l'écriture. Bien souvent, elle emploie le mot « feuille » plutôt que le mot « page » dans ses vers, avec évidemment une analogie, la feuille du livre, la feuille de l'arbre. Il y a quelque chose d'extrêmement léger dans l'écriture. Évidemment, on pense à Verlaine, rien qui pèse ou qui pose. Et je pense que cette envolée de la parole a pu être travaillée effectivement au théâtre, où elle a expérimenté la puissance des modulations de la voix.
Il y a un adjectif qui revient dans les critiques dramatiques dont on dispose à son endroit, c'est le terme de justesse.
Oui.
C'est quelqu'un dont la justesse de jeu, on parle aussi souvent du naturel, a beaucoup frappé les auditeurs. C'est remarquable tout de même dans ce moment du théâtre, et c'est certainement une position spontanée. Cela aussi était appris et travaillé, en particulier parmi ses maîtres et ses formateurs au théâtre. Il y a Grétry. Grétry qui vient de la fin du XVIIIe siècle, qui lui transmet aussi une certaine référence à Rousseau et à des valeurs de naturel, entre guillemets, de transparence héritée de Rousseau. Et elle a été formée à cette école-là. Visiblement, elle a su porter de façon extrêmement convaincante et assez originale, pour ce qu'on peut savoir, dans les pratiques dramatiques du temps à la scène. Et ensuite, ses valeurs vont demeurer les siennes lorsqu'elle va se mettre à écrire.
Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans son écriture qui relèverait de la justesse ?
Je crois qu'elle essaie d'être au plus près, au plus juste, et c'est bien pour cela qu'elle est aussi inventrice, initiatrice quant aux moyens aussi de dire, dit Mallarmé, c'est la formule que vous avez citée au début de l'émission, c'est-à-dire qu'elle veut être si près de cette souffrance, ou de cet élan, ou de ce frappement fiévreux intérieur qu'elle veut apporter au langage, qu'elle est obligée d'inventer. Elle cherche des mots qu'elle puise à toutes les sources, Donc le plus grand répertoire, ou le plus familier, ou le plus léger, ou parfois des poésies en patois, ou des formes longs littéraires d'écriture, mais vraiment portées par un besoin de dire, et de dire juste.
Oui, qui se ressent aussi dans une syntaxe, souvent... très, très novatrice, avec des effets de concision très frappants, où on sent que tout ce qui n'est pas indispensable à la justesse s'évapore. Il faut aimer deux, voilà, des tournures syntaxiques extrêmement concises, donc denses, pleines de sens, et qui passent presque inaperçu dans la fluidité du vers. On ne sent absolument pas la rhétorique, elle est là. Le travail rhétorique du vers est présent. Je pense que ce serait une erreur que d'imaginer une composition absolument spontanée. Mais
c'est ce qu'on a vu. Hein. Par ailleurs, c'est ce qui a été vu chez elle aussi. Alors on va en parler de ça après, hein, de sa réception. Hein. Mais cette idée justement d'une rhétorique naturelle, hein, alors que bon, qu'il ne faut pas oublier effectivement d'associer au féminin. Mais ça, c'est encore autre chose dont on va parler. Mais malgré tout, rejoint bien ce que vous êtes en train de dire.
Oui, je pense que la merveille de son écriture, c'est d'arriver à cette justesse sans jamais que l'effort ne soit perceptible dans le style, dans l'écriture.
Oui, Christine Planté, vous voulez rajouter quelque chose ?
Peut-être sur cette question de la syntaxe qui en effet est fondamentale, parce qu'on a beaucoup parlé du cri à son propos, on a parlé du chant, on a peu vu ce travail de la syntaxe qui en effet très important, très précis et très cohérent. Ce que vous venez de dire paraîtra peut-être surprenant à des lecteurs ou à des auditeurs, tant on a associé Marceline Desbordes-Valmore et son écriture poétique à une sorte de formule devenue cliché que l'on doit à Gérard Douville, la syntaxe dénouée, quelque chose qui se déferait, qui serait un petit peu lâche, et que l'on relève un vers tiré des roses de Saadi, donc avec cette image de la ceinture dénouée qui laisse échapper les roses. Donc je crois qu'il y a les deux, et c'est peut-être une des difficultés pour nous aujourd'hui de lire une telle poésie, mais ça vaut au-delà de Marceline Desbordes-Valmore pour une bonne part de la poésie romantique, c'est que tous les moments d'un poème, et a fortiori tous les moments d'un recueil, ne sont pas d'une même densité. Dans chaque poème, tous les poèmes alternent des moments un peu de rêverie plus fluide, on peut se laisser porter par une rythmique ou par des images, et des moments avec des formules frappées extrêmement remarquables, alors qui peuvent souvent intervenir en début de vers, hein, par exemple ce vers remarquable qui sera souvent commenté de Victor Hugo à Verlaine, inexplicable cœur, énigme de toi-même. Une autre version qui dit « énigme pour toi-même ». Bon, ça, c'est une attaque de poème extraordinaire, parce que très scandée, travaillant sur les allitérations, extrêmement abstraite aussi, presque agressive. Un vers comme cela montre qu'il y a cette puissance accumulée qui trouve des formes où se dire de façon ramassée. Et puis après, dans le même poème, on peut avoir des moments moins remarquables. Et vraiment, la parole poétique de Desbordes-Valmore et probablement la réception de la poésie dans ces années là a besoin des deux, avec cette expérience très profonde, mais sur laquelle reviendront de grands poètes du XXe siècle, que une parole poétique ne peut se maintenir ni pour qui l'écrit ni pour qui la reçoit constamment à son maximum d'intensité, parce que ce serait tout simplement irrecevable, irrespirable, pour prendre un vers auquel un mot auquel elle tient. Et elle affectionne par exemple le verbe desserrer. Desserrer les cœurs, desserrer la souffrance. Voilà. Il y a des moments où l'écriture rythmique et prosodique est desserrée chez Desbordes-Valmore, et puis il y a au contraire des moments extrêmement concis qui tiennent de la formule, et qui en particulier, alors usant du cadre de l'alexandrin, proposent des vers saisissants que l'on peut retenir presque hors du contexte du poème qui les porte. Bon. Dans le registre amoureux, toi qui m'as tout repris jusqu'au bonheur d'attendre. Dans un registre plus sombre, mystique et théologique, ce vers qui est presque un traité de Pascal résumé en un alexandrin. Je vous obtiens déjà puisque je vous espère. Voilà. Dans des vers à son nouveau-né, mais donc peu après la naissance et l'expérience de la séparation, mais si près que tu sois, l'air circule entre nous. Donc on voit là, en effet, un art à la fois de la syntaxe et de la formule. Oui. Bien entendu, elle a écrit des poèmes extrêmement longs. On n'a pas des suites de 120 vers qui sont de ce niveau. Mais je crois que ces variations d'intensité font vraiment partie de ce rythme de lecture qu'il faut accepter pour recevoir cette poésie.
Vous parlez même, Christine Planté, parfois par moment, hein, de, justement pour ces longs poèmes, parfois de moments de banalité ou de gaucherie même, pour ce qui est de l'écriture, en tout cas de ces longs poèmes. Alors, puisqu'on parlait justement de justesse et de rythme, on écoute.
Veux-tu l'acheter? Mon cœur est à vendre. Veux-tu l'acheter sans nous disputer? Dieu l'a fait des morts, tu le feras tendre. Dieu l'a fait des morts pour un seul amant. Moi, j'en fais le prix, veux-tu le connaître? Moi, j'en fais le prix, n'en sois pas surpris. As-tu tout le tien? Donne et sois mon
sincère. Alors toujours la voix de Françoise Massé et Nicolas Stavy au piano, hein, pour un poème extrait du recueil Les Pleurs, mis en musique à l'époque, hein, déjà, en tout cas je pense quasiment dans la foulée de l'écriture de ce poème, hein, ou de cette romance. Ce recueil Les Pleurs, paru en 1833, qui reparaît donc chez Flammarion, Esther Pinon, hein, dont vous avez assuré la présentation, les notes, le dossier, la chronologie, etc. C'est vous qui avez choisi de faire entendre La Sincère, pour une raison particulière?
Alors, pour une raison contextuelle, pour commencer, qui est que cette romance a été mise en musique par Pauline Duchange, qui était une des grandes amitiés de Marceline Desbordes-Valmore. On parle souvent de ces amours douloureuses, mais il y a aussi cette amitié qui remplit une large part de sa vie et qui donne lieu à une correspondance très nourrie où je crois la plume s'exerce aussi. C'est aussi c'est ces collaborations poétiques et musicales l'un des signes de cette solidarité dont on parlait tout à l'heure. Et puis cette romance, justement, je trouve qu'on y sent ces variations dont on parlait à l'instant, avec un début assez, je n'irai pas jusqu'à dire prosaïque, parce que là, on est face à une romance ciselée, une forme brève, mais une certaine familiarité dans cette transaction du cœur. Mon cœur est à vendre, veux-tu l'acheter? Et on aboutit, hein, à cette formule, une de ces formules extrêmement denses et frappantes, l'âme doit courir. Et je crois que là, la parole court, la parole glisse, comme cette âme qui est chantée et que l'on vient d'entendre. Sur ce petit texte très bref, voilà, on entend cette parole neuve de la romance dont on parlait, et les variations dont est capable la plume de Desbordes-Valmore. Donc cette romance me paraissait très, très représentative de ce travail de l'écriture qui est le sien.
Alors, y compris des variations rythmiques, oui. Métriques. Alors, on parlait effectivement tout à l'heure de, alors sans doute de la souplesse que la romance lui a permis, hein, d'une certaine façon, parce que donc elle passe de la scène à la romance, enfin, je le dis un peu vite, hein, mais de la scène au chant et au poème. Donc, il y a cette souplesse-là. Il y a aussi l'idée, sur laquelle on va aussi revenir, hein, de Desbordes Valmore autodidacte, donc avec. Une possible, enfin en tout cas pas de culture héritée, ce qui l'aurait obligé d'une certaine façon à inventer. Alors la question se pose effectivement de savoir si elle feint d'ignorer les règles. Est-ce qu'on peut croire qu'elle feint d'ignorer les règles ou que véritablement elle s'amuse, elle innove de façon très impressionnante dans la façon de desserrer ou resserrer d'ailleurs le verre.
Je ne pense pas qu'elle ignore les règles. Elle n'a pas la culture des grands contemporains du romantisme. Elle n'a pas étudié, ni traduit, ni imité des vers grecs et latins, ce qui est la formation de tous ses contemporains. En revanche, elle a joué Racine, elle a joué du répertoire plus léger, elle a joué de la poésie chantée, donc pratiqué des maîtres très différents, et elle a eu un souci passionné de compléter, d'enrichir constamment sa culture. Et on voit très bien comment ce qui passe à sa portée passe dans sa poésie, y compris un accueil de culture et poésie étrangère, alors de langue anglaise, hein, elle lisait l'anglais, elle en a un petit peu traduit, donc de poètes irlandais ou anglais.
Et elle puis, en cite d'ailleurs, enfin je veux dire, elle en utilise
elle en cite,
souvent.
Elle en cite en épigraphe.
En épigraphe.
Elle en imite aussi. Et puis des poésies plus lointaines, telles qu'elle pouvait en avoir connaissance à l'époque, en particulier Saadi, donc, oui. Dont elle imitera les roses. À la fin de sa vie. Donc, elle n'est pas si ignorante qu'on a bien voulu le dire. Elle-même, en effet, a beaucoup joué de l'humilité, je crois, à la fois comme une posture prudente pour se faire accepter, parce que le mépris pour les femmes auteurs était un motif très insistant de l'époque, et par conscience de ses limites. Donc elle ne veut pas s'aventurer au-delà de ce qu'elle sait pouvoir faire, de ce qu'elle s'autorise elle-même à faire, et en particulier elle a toujours dit, ce qui est assez drôle mais c'est un cliché d'époque, qu'elle ne pouvait pas écrire un sonnet, que le sonnet n'était pas sa forme, c'était une forme trop savante ou trop concise. Mais elle innove bien sûr, je dirais à la fois spontanément, elle fait des vers avec ce qu'elle a appris, ce qu'elle a en mémoire, ce qu'elle a à la bouche, pourrait-on dire, et délibérément, elle cherche. Oui. Elle cherche pour être au plus juste, elle cherche pour faire entendre une voix singulière. Alors cela, on en a quelques témoignages. Alors, il faut peut-être, comme le temps passe, aller vers la fin de l'œuvre et les moments d'illustration les plus frappants, les plus éblouissants de cette invention rythmique. C'est bien sûr tous les vers impairs pour lesquels Verlaine lui rendra hommage. Là, ça vient de la musique de la poésie chantée et de la romance. C'est ce vers de 11 syllabes, quand même extraordinaire. C'est la première poète moderne à utiliser ce vers de 11 syllabes en français. On ne sait pas exactement d'où lui vient cette forme remarquable. Il y a plusieurs hypothèses et il y a là quelque chose de saisissant. Donc, où Rimbaud, Verlaine et encore des poètes d'aujourd'hui, Jacques Roubaud, vont reconnaître une source tout à fait inventive et nouvelle. Donc, ce n'est pas vrai que l'on fait des vers de 11 syllabes par hasard.
Spontanément,
essayez de sangloter en vers de 11 syllabes, vous verrez, ce n'est pas possible. Et surtout que il n'y a que deux poèmes en vers de 11 syllabes, mais qui sont tous les deux absolument remarquables. L'un qui est un poème extraordinaire, composé en distique, rêve intermittent d'une nuit triste, hein, un poème dont Yves Bonnefoy dit qu'on est presque à la limite de l'art occidental de la poésie, qui est un poème absolument singulier. Et l'autre, qui est plus aisé à recevoir, plus aisé à lire à voix haute aussi, parce que ce n'est pas si facile, La fileuse et l'enfant, qui est un poème composé en quintile, donc une strophe assez ample et en fait assez savante. Hein, donc ce n'est pas du tout fait de briques et de brocs, et ce ne sont pas non plus des maladresses. Enfin, si je caricature certaines images véhiculées de Marceline Desbordes-Valmore, elle a fait des indécasyllabes parce qu'elle ne savait pas compter jusqu'à 12 ou parce qu'elle n'avait pas assez de souffle. Il est bien évident que ce n'est pas le cas. Et elle l'ouvre là, hein, dans cette si grande difficulté de la poésie du 19e siècle à sortir de l'alexandrin, à faire quelque chose avec cet héritage si riche, si inspirant et puis en même temps si limitant. Elle ouvre la première, avant Rimbaud et Verlaine, une voie pour porter cet héritage du vers et le réinventer et desserrer précisément le carcan métrique pour l'ouvrir sur une rythmique.
C'est dans ce sens-là que Sainte-Beuve, je crois que c'est en 1833, parle d'un poète que nos poétiques n'admettaient pas.
Oui, c'est aussi un peu à titre autocritique, puisque cet article de Sainte-Beuve réagit à la publication des pleurs. Donc c'est un moment où je dirais...
Il n'est pas tout à fait tendre, hein, d'ailleurs, alors qu'il l'a beaucoup soutenu, mais pour les pleurs, il est un peu plus...
tendre ensuite.
Il a été plus tendre ensuite, il n'a pas beaucoup soutenu avant, c'est-à-dire qu'en fait, avec cette formule, il s'explique finalement de la façon dont il prend acte assez tardivement. De la production de Marceline Desbordes-Valmore. Cette formule est très belle, hein, un poète que nos poétiques n'admettaient pas. Il n'y a pas de plus bel hommage, d'une certaine façon, surtout sous la plume d'un critique dans la position autorisée de Sainte-Beuve. Et il dit quelque chose à cette époque qui est intéressant, c'est que déjà, alors qu'il a laissé passer les premiers recueils sans les commenter, il voit quelque chose de plus authentique ou peut-être de plus naturel dans les premiers poèmes de Marceline Desbordes-Valmore. Et il lui reproche, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que le reproche n'est pas tout à fait dénué de fondement, d'avoir voulu un petit peu trop se faire poète ou poétesse romantique dans ce recueil-là. Et donc peut-être de perdre un petit peu de l'extrême singularité de sa voix, alors que rétrospectivement il a perçu dans les premiers recueils et qu'il reconnaîtra plus tard, et y compris à titre posthume, dans les très grands poèmes de la fin.
Oui, c'est vrai que dans les pleurs, l'empreinte de Lamartine, par exemple, est très, très nette. Il me semble malgré tout que ça n'ôte rien à la singularité. Voilà, je reconnais la justesse de la remarque de Sainte-Beuve, évidemment, qui témoigne de son acuité de lecteur. Mais justement, pour en revenir à la métrique, je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez, Christine Planté. L'exemple canonique, c'est évidemment ce vers de 11 syllabes du rêve intermittent d'une nuit triste, qui est absolument hallucinant, parce que contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'enlever une syllabe à ce rythme de l'alexandrin qu'elle maîtrise depuis des années, absolument, qui est devenu le rythme naturel en réalité. Quand Rimbaud essaie de casser l'alexandrin, on voit dans son travail, les études génétiques menées par Steve Murphy par exemple, montrent bien que c'est très difficile. Donc on imagine l'effort que demande l'écriture de ce vers de 11 syllabes. Un vers amputé, tout comme elle sait qu'elle va être amputée d'une partie d'elle-même, puisque sa fille Inès est mourante au moment où elle écrit ce poème. Il n'y a rien d'aussi spectaculaire, évidemment, du point de vue métrique dans les pleurs, mais je trouve qu'on y sent déjà cette virtuosité du vers, où la singularité ne cesse de se faire entendre.
Christine Planté ?
Il me semble qu'il faudrait entendre un petit peu des deux usages du vers de 11 syllabes, parce que c'est extrêmement différent. Pardon. Les deux poèmes en vers de 11 syllabes ont été publiés à titre posthume dans le recueil des poésies inédites 1860. C'est important de rappeler ces dates, parce que Marceline Desbordes-Valmore commence sa carrière poétique, si on peut employer un tel terme à son propos, comme contemporaine au sens plein de Lamartine. Son premier recueil paraît un petit peu avant les méditations de Lamartine. C'est important parce qu'on en a beaucoup fait une imitatrice. Et ils sont contemporains, je dirais qu'ils se doivent mutuellement des choses, mais elle n'est pas une imitatrice. Et elle est par la date, mais aussi par la poétique, vraiment pleinement contemporaine de Baudelaire. Et donc, le dernier recueil, qui paraît à titre posthume, parce qu'elle avait beaucoup de mal à publier à la fin de sa vie, paraît en 1860, en Suisse. Elle est morte en 1859. Et c'est donc vraiment pleinement contemporain des Fleurs du Mal. Et donc, peut-être on peut lire les premières strophes de La fileuse et l'enfant, celles que Jacques Roubaud cite et reproduit, hein, ce qui est quand même un bel hommage, dans peut-être Ou la nuit de dimanche, donc en 2018, quelque chose de très récent, comme témoignage des rares emplois du vers de 11 syllabes, en soulignant que ce vers est composé 5-6 syllabes. La fileuse et l'enfant. J'appris à chanter en allant à l'école. Les enfants joyeux aiment tant les chansons. Ils vont les crier aux passereaux qui volent, aux nuages, au vent, ils portent la parole, tout légers, tout fiers de savoir des leçons. La blanche fileuse à son rouet penché ouvrait ma jeune âme avec sa vieille voix lorsque j'écoutais, toute lasse et fâchée, toute buissonnière en un saule caché, pour mon avenir, ses thèmes d'autrefois. Elle allait chantant d'une voix affaiblie, mêlant la pensée au lin qu'elle allongeait, courbée au travail comme un pommier qui plie, oubliant son corps d'où l'âme se délie. Moi, j'ai retenu tout ce qu'elle songeait. Et vient ensuite une longue série de quintiles qui égrènent les propos de la fileuse. Donc ce poème est remarquable parce que non seulement il est écrit en vers de 11 syllabes, mais il définit une position très caractéristique de la position de Marceline Desbordes de Valmore en poésie, celle d'une passeuse, d'une écouteuse. C'est un mot qu'elle emploie à plusieurs reprises dans des vers et dans des lettres à propos d'elle-même. Elle est poète pour avoir écouté et entendu. Elle devient un « je », ce fameux « je » lyrique central pour la poésie romantique, parce qu'elle a d'abord été un « tu » et que le « je » émerge en réponse à la parole, dans le dialogue, et aussi en transmission de la parole. Ces vers métriquement extraordinaires sont en même temps intimement liés à une expérience de l'oralité, expérience de la vie et du langage portée par la voix, dont celle qui les reçoit ne peut faire autre chose que les transmettre à son tour. Hein, quand, en ces vers dont vous avez dû remarquer qu'à la lecture, ils ne semblent pas d'une audace métrique extraordinaire. On ne se dit pas, mais ce sont des vers impairs. Mais c'est très étrange, ce ne sont pas du tout les grands poèmes en vers de 11 syllabes de Verlaine, par exemple, comme Crimène à Maurice, les derniers poèmes de Rimbaud. C'est quelque chose qui semble familier. L'autre emploi du vers de 11 syllabes est plus remarquable encore et plus difficile à lire. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui ouvre un moment de la modernité poétique, puisque on a toujours cet héritage de la voix et de l'éloquence. On va retrouver ce haut de la poésie lyrique. Et il y a en même temps quelque chose de visuel, c'est-à-dire que pour bien saisir ce poème, je vais lire les premiers distiques, il faut le voir sur le blanc de la page, les distiques se s'égrenant sur le blanc de la page, et on pourrait dire ici que visuellement et rythmiquement, Marceline Desbordes de Valmore résout autrement cette tension qu'on a évoquée dans les poèmes de la période romantique, où il y a des moments de très grande densité et des moments plus fluides, d'une certaine banalité, d'un certain flottement. Ici, avec des distiques, c'est comme si on n'avait plus que les moments d'extrême intensité qui se détachent sur le blanc et sur le silence de la page. Au champ paternel, hérissé de charmilles, où glissent le soir des flots de jeunes filles. Au frais pâturage, où de limpides eaux font bondir la chèvre et chanter les roseaux. Ô terre natale, à votre nom que j'aime, mon âme s'en va toute hors d'elle-même. Mon âme se prend à chanter sans effort, à pleurer aussi, tant mon amour est fort. J'ai vécu d'aimer. J'ai donc vécu de larmes, et voilà pourquoi mes pleurs eurent leur charme. Voilà, mon pays, n'en ayant pu mourir, pourquoi j'aime encore au risque de souffrir. Voilà, mon berceau, ma colline enchantée, dont j'ai tant foulé la robe veloutée, pourquoi je m'envole à vos bleus horizons, rasant les flots d'or des pliantes moissons. On aura, je pense, probablement entendu comment ici l'élan lyrique le plus éloquent, le plus en rupture avec le régime ordinaire de la parole, est complètement mêlé à des mots concrets. Le pâturage, la chèvre, les roseaux, la robe veloutée de la colline. Voilà, cela, c'est vraiment la position d'énonciation poétique de Marceline Desbordes-Valmore.
Je voudrais peut-être en terminer l'émission, en tout cas, avec la lecture qu'on a pu faire de Marceline Desbordes-Valmore. Au début de l'émission, donc, j'évoquais effectivement tous ces poètes, alors contemporains bien sûr, hein, qui ont écrit sur elle, qui l'ont soutenue. Alors évidemment, avec nos lunettes d'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de ne pas y voir une forte identification au cliché du féminin ou à l'identification au féminin. Mais il n'y a pas que ça dans ce que Baudelaire a écrit sur elle, dans ce que Verlaine a écrit sur elle, ou Mallarmé a écrit sur elle. Pour autant, et Esther Pinon, vous revenez aussi là-dessus, c'est vrai qu'il semble, comme ça, à première vue, vite fait, qu'elle ait surtout été lue et défendue par des poètes, beaucoup, et par des poètes hommes. Et pour prolonger cette lecture, au XXe siècle, c'est vrai qu'il y a eu une certaine méfiance de la part des femmes à l'égard de Marceline Desbordes-Valmore. Je pense, alors pour des tas de raisons, hein, je pense à Nathalie Sarraute, oui, que vous citez évidemment, qui dans Enfance revient sur une récitation, donc la fameuse récitation, hein, et elle écrit dans Enfance, « Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies et blanc et fait pour moi. Tout en récitant, j'entends ma petite voix que je rends plus aiguë qu'elle ne l'est, pour qu'elle soit la voix d'une toute petite fille et aussi la niaiserie affectée de mes intonations. Je perçois parfaitement combien est fausse, ridicule cette imitation de l'innocence, de la naïveté d'un petit enfant. » Mais il est trop tard. Il y a comme ça une petite histoire de la méfiance des femmes et des femmes féministes à son égard qui tiendrait à quoi, d'après vous, Esther Pinon et Christine Planté?
Je pense qu'elle est un modèle encombrant, en quelque sorte. Et puis, on l'a dit, elle assume dans une certaine mesure cette image projetée sur elle qui ne correspond plus, voilà, à l'image que veut porter une Nathalie Sarraute, par exemple. Pour nuancer tout de même un petit peu cette méfiance, Marina Tsvetaeva a rendu hommage à Marceline Desbordes-Valmore. Elle écrit un poème dans lequel il y a ces vers, alors traduits, donc malheureusement, ça va être une trahison de Marina Tsvetaeva, mais « Tu vis, tu es en moi, Marceline ». Donc cette méfiance n'est pas partagée par tous.
Christine Planté.
Je pense qu'il faudrait creuser, mais je ne sais pas si nous en avons le temps, ce qui se joue derrière le féminin et se demander de quoi le féminin et le nom dans cet élan des poètes vers Marceline Desbordes-Valmore, en tout cas dans le cas de Verlaine ou dans celui de Aragon, deux grands lecteurs, pour des raisons différentes. Et à des moments différents de l'histoire de la poésie française, les raisons sont très complexes. Et derrière ce féminin, tout de sentiments ou de pleurs, ou s'y identifier à la position maternelle, se joue aussi bien d'autres choses, et en particulier, très clairement, et pour Verlaine, et pour Louis Aragon, il y a trouvé chez Marceline Desbordes-Valmore une énonciation poétique du désir pour un homme, pour le corps d'un homme. Il n'y a pas tant d'exemples dans l'histoire de la poésie française et même occidentale qui peuvent donc être une ressource cachée, montrée de l'aveu d'un désir homosexuel. Donc le féminin, c'est quelque chose de très compliqué du côté des lectures masculines. Ensuite, il faudrait dire qu'il y a quand même d'autres motivations de la lecture. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas parlé de tout le versant politique et sociale de Marceline.
Oui, elle est la seule effectivement à avoir écrit autour de la répression de la révolte des Canuts en 1834.
Mais ce sont des vers extraordinaires. Enfin, c'est quelque chose d'absolument singulier dans la poésie française du temps. On trouverait peut-être des équivalents dans une poésie politique anglaise, mais il y a vraiment rien de tel dans la poésie française du temps. Avec l'extraordinaire poème qui est dans la rue, on est avec une voix qui nous fait déjà penser au Hugo de Châtiment, mais on est 30 ans avant les Châtiments, donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Ensuite, on peut dire que ces femmes qui se méfient de Marceline Desbordes-Valmore, qu'elles n'ont pas lu, ou qu'elles ont très peu lu, ou dont elles n'ont lu que certains extraits, et sur lesquels elles ont entendu un certain discours répété, je les comprends, je trouve qu'elles ont raison jusqu'à un certain point, en particulier s'agissant de Nathalie Sarraute, mais s'agissant aussi de Monique Wittig, bien sûr, ou Liliane Giraudon. Ce sont des femmes qui n'ont pas envie de se faire enfermer dans le piège du féminin, ni elles, ni surtout leurs écrits et leurs œuvres, qui n'ont pas envie d'être reléguées au rayon des bluettes ou d'une poésie de second rang. Simplement, ce qui est dommage, c'est que ceci fait écran à une vraie lecture de Marceline Desbordes-Valmore. Et enfin, ce qu'il faudrait dire vraiment, c'est que même si Marceline Desbordes-Valmore a assumé sa position de femme, s'y reconnue, a revendiqué une position féminine et des solidarités féministes, elle ne se laisse pas, comme poète, entièrement définir par cela. Et parmi les poèmes les plus connus qu'on lui doit, ce qui est remarquable, c'est que certains sont écrits entièrement en première personne, sans accord au féminin. Les roses de Saadi.
Il y en a plusieurs même, oui. Plusieurs de ces poèmes effectivement peuvent être lus par un homme ou une femme, voilà, indifféremment.
C'est quand même extraordinaire parce que ces poèmes à la fois jouent du féminin et sont reçus dans ce registre parce qu'ils sont signés Marceline Desbordes-Valmore, mais ils sont en même temps appropriables autrement, comme le rappelle très justement Yves Bonnefoy, la robe dans Les Roses de Saadi, dans l'apologue persan qui est imité, c'est la robe d'un sage, et c'est une expérience mystique qui est rapportée. Et dans Les Séparés, lorsque ces vers ont été mis en musique par Julien Clerc, portés par une voix masculine, le poème passait parfaitement et pouvait être reçu de façon tout à fait naïve, comme la parole de tristesse d'un homme quitté. Donc, et si c'est une fois, on peut se dire c'est un effet du hasard, mais comme la langue française est très contraignante en obligeant à multiplier les accords de genre, que l'on retrouve plusieurs fois ce phénomène semble indiquer que Marceline Desbordes-Valmore a aussi au moins intuitivement perçu ce piège du féminin, a essayé de s'y arracher. Et on pourrait peut-être, j'aurais finir sur un vers tout à fait extraordinaire qui vient d'un poème assez peu connu, d'un recueil plus tardif que Les Pleurs, dédié à un poète contemporain, peu connu lui-même, le poète prolétaire Théodore Le Breton. Ce poète, allant vers l'Italie, fait escale chez elle à Lyon. C'était quand elle habitait Lyon, une sorte de tradition pour beaucoup de voyageurs. Et le poème est une sorte de long poème de reconnaissance et d'adieu où elle explique qu'elle ne va pas pouvoir le suivre sur le chemin de l'Italie, qui est pourtant la patrie des arts et de la poésie. Et donc elle évoque le poète qui va poursuivre sa route au soleil. Et elle a ce vers pour définir sa propre position. Moi, je suis ceux que la gelée offense. Alors, suivre, on peut penser bien sûr que c'est du verbe suivre, qu'elle ne va pas suivre la route de l'Italie, mais qu'elle va suivre les misérables qui restent ici. Mais chez quelqu'un qui a été actrice, qui a un sens du langage aussi précis que Marceline Desbordes-Valmore, bien sûr, on ne peut pas ne pas entendre, et certainement elle le savait pleinement, je suis du verbe être, avec... Voilà, une de ces audaces syntaxiques extraordinaires. Je suis ce, au pluriel, un pluriel anonyme, masculin, où en somme, elle est la voix d'une pluralité d'humiliés, d'offensés, de souffrants et d'humains. Et là, bien sûr, à partir de sa position de femme, elle peut être la voix de beaucoup plus, de beaucoup d'autres.
Christine Planté, Esther Pinon, merci à toutes les deux. C'est déjà la fin de cette émission que je vous laisse conclure entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Je voudrais rendre hommage à Marc Bertrand. Oui. Qui a consacré sa thèse de stylistique à la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, à son usage du vers. Marc Bertrand nous a quittés il y a quelques jours et voilà, on ne peut pas laisser finir cette émission sans évoquer son nom.
Vous m'avez appris en fait son décès aujourd'hui et donc j'en suis émue. Et j'espère que la poésie de Marceline Desbordes-Valmore continuera à résonner, et le travail de Marc Bertrand aussi, grâce à elle, il l'a porté, que maintenant elle le porte dans les mémoires.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. À la technique aujourd'hui, Pierre Monteil, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, Alexandre Manzanares. Le détail des actualités, des invités du jour, c'est sur le site de l'émission. À réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Antoine Beauchamp.